Est-ce que vous allez bien ce matin? Oui? Vous êtes en forme? Eh ben, très bien. Moi aussi, je suis en forme, grâce à Dieu. Et je vous invite juste à prier de nouveau avant de commencer la prédication. Seigneur, ta parole est vivante, elle vit et elle donne vie au Seigneur. Et nous, les hommes, Seigneur, avons besoin de cette parole pour avoir la vie. Celle qui vient de Jésus. Et je prie au Seigneur que, comme tu m'as parlé au travers de ce message, Père, tu parles aussi à mes frères et sœurs réunis ici dans la salle et aussi sur Zoom, au Seigneur. Que tu ouvres notre intelligence pour comprendre, que tu ouvres notre intelligence, Seigneur, pour mémoriser et que tu nous donnes, au Seigneur, la bonne volonté et la bonne disposition de cœur pour mettre en pratique ta parole pour qu'elle nous donne la vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, avant de commencer, je voulais vous proposer de deviner qui est le personnage principal et l'auteur de notre texte de ce matin. Je pense que Valdo a interdiction de dire un mot. Alors, il s'agit d'un homme juif qui a vécu au temps de l'Ancien Testament. Il n'était pas prophète, mais nous a gratifié de textes splendides dans des prophéties messianiques. Il était de la tribu de Juda. Et avait exercé à l'âge de 30 ans la responsabilité la plus importante du royaume. Vous direz ? David. Il s'agit bien en effet de David. Et êtes-vous comme la majorité des Français au réveil ? Après avoir repoussé l'alarme une ou deux fois, il faut malheureusement sortir du lit. Pour faire quoi ? À la grande surprise, les Français ne se lèvent pas pour aller aux toilettes, ni pour aller faire chauffer le café ou préparer des toasts. En fait, ils ne se lèvent même pas vraiment. Selon une étude réalisée par YouGov for WeFix, l'un des leaders français de la réparation des smartphones, auprès d'un panel de 1001 personnes en décembre 2019, donc c'est vraiment récent, la première chose que les Français font au réveil, c'est regarder leur smartphone. Et pour faire quoi? Deux choses en priorité. Regarder les mails, surfer sur Internet. Voyons ce qu'il en est de David. Connecté ou déconnecté. Psaume 5, ce sera notre texte de ce dimanche. Psaume 5. Donc c'est un psaume de David. Moi, je lirai dans la version Parole de vie, psaume 5. Allez, je vous laisse trouver pour qu'on lise ensemble. Psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale, avec des flûtes. Seigneur, écoute ce que je dis, comprends ma plainte. Mon Dieu et mon roi, sois attentif quand je fais appel à toi. Seigneur, c'est toi que je prie. Le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me prépare pour toi et j'attends. Toi, tu n'es pas un Dieu qui aime le mal. L'homme méchant n'est pas reçu chez toi. Non, les orgueilleux ne peuvent pas se présenter devant toi. Tu as horreur de tous ceux qui font du mal. Tu fais mourir les menteurs. Seigneur, tu détestes l'assassin et le voleur. Mais moi, grâce à ton amour, je peux entrer dans ta maison. Avec grand respect, je me mets à genoux en direction de ton saint temple. Seigneur, tu es juste. Guide-moi à cause de ceux qui me surveillent en cachette. Enlève les obstacles sur le chemin que tu m'indiques. Non, on ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Leur cœur est plein de crimes. Leurs paroles détruisent les gens. Avec leur langue, ils trompent les autres. Ô Dieu, montre qu'ils sont coupables, que leurs projets les fassent tomber. Ils ont fait beaucoup de mal. Chasse-les, car ils se sont révoltés contre toi. Mais tous ceux qui se réfugient en toi seront dans la joie. Leur joie ne finira pas, car tu les protégeras. Ils danseront de joie, ceux qui aiment ton nom. Oui, toi Seigneur, tu bénis ceux qui t'obéissent. Ta bonté les entoure comme un bouclier. Voilà où s'arrête notre texte, notre lecture de ce matin. Connexion à Dieu dès le matin. C'est le titre que j'ai donné au verset 2 à 4 qui nous dit « Écoute ce que je dis, comprends ma plainte, mon Dieu et mon roi, sois attentif quand je fais appel à toi. C'est toi que je prie. Le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me prépare pour toi et j'attends. » On ne sait pas à quel moment de sa vie David a écrit ce psaume, mais une chose est sûre, il était dans une paix relative, sans danger imminent. Il était vraisemblablement roi et sa royauté n'était pas menacée. Il dit au verset 8, par exemple, « Moi, je peux rentrer dans ta maison », ce qui prouve bien qu'il n'était pas menacé. David est donc roi, deuxième roi dans l'histoire du peuple d'Israël. La monarchie est encore primitive et le roi avait sans doute beaucoup de charges. Voyons quelques fonctions que pouvait exercer un roi à cette époque. David était le chef de l'armée, allant lui-même au front. Le roi rendait également justice. Et en cela, on peut voir l'exemple du jugement célèbre de Salomon entre deux femmes qui se disputaient la maternité d'un enfant. David était un roi très, très occupé. C'est Salomon, son fils, qui, à son arrivée au trône, organisera le royaume en divisant Israël en 12 districts et en mettant un gouverneur à la tête de chacun d'entre eux. Et chaque gouverneur devait fournir les vivres nécessaires au palais pendant un mois de l'année. Et ça, on trouve ça dans 1 roi 4. David était donc, lui, un homme très, très occupé. Mais une chose particulière dans la gestion du temps de David, moi, m'a interpellé. Pour le voir, je vous propose de vous imaginer dans la peau de David et de faire un focus sur le début de sa journée. Alors, voyageons, il est 5h ou 6h du matin, l'iPhone sonne, vous faites quoi? Oups, il n'y a pas d'iPhone à cette période, à cette époque. Non, recommençons alors notre imagination. David se lève d'un banc, il sort de son lit, prend son épée et se tient prêt à affronter sa journée. Non plus. Mais dès le matin, David se tourne vers Dieu, verset 4. Le matin, je me prépare pour toi, ou je me tourne vers toi, selon la version Second 21. Se connecter à Dieu dès le matin. David nous livre là un des secrets de sa vie bénie et édifiante, le secret de ses réussites. La priorité de sa relation avec Dieu, à qui il consacre ses premières heures de la journée. Malgré ses occupations liées à sa fonction, le roi David déclare qu'il commence sa journée en s'adressant à Dieu. Dieu qu'il appelle son Seigneur, son Dieu, son roi. Mais pourquoi se tourne-t-il vers Dieu dès le matin? C'est une question qu'on pourrait se poser et on peut esquisser une réponse. En tant que peuple élu, peuple auquel Dieu s'était révélé, les Juifs disposaient des récits de leurs ancêtres, et notamment le livre de Genèse, qui décrit Dieu comme le créateur, maître de l'univers. Et en agissant ainsi, David met Dieu au centre en reconnaissant sa dépendance à ce Dieu créateur. Pour avoir entendu, vu et expérimenté la puissance de Dieu, David sait que Dieu est tout puissant pour diriger chaque pas de sa journée, de sa vie. David a l'assurance que Dieu l'entend et qu'il répond à ses prières. Le matin, tu entends ma voix. Oui, c'est certain, il a déjà expérimenté. Malgré ses occupations de roi, d'administrateur, David prend le temps dès le matin d'aller à la rencontre de Dieu pour lui soumettre sa journée. Qu'en est-il pour nous le matin? Nous avons certainement de fausses bonnes raisons de vaquer à autre chose le matin. Le réveil qui sonne à la dernière minute pour le départ au travail, les enfants dont on doit s'occuper dès le réveil, le fait qu'on est mal dormi, et on pourrait continuer ainsi la liste. Mais suivons plutôt l'exemple de David. Aménageons du temps dès le matin et connectons-nous à Dieu. intégrons dans notre préparation matinale un temps de prière avec Dieu. Même si nous ne savons pas quoi dire dans nos prières, parlons avec nos mots. Et le Saint-Esprit donné à tous ceux qui croient en Jésus priera pour nous, pour eux, auprès du Père, avec des mots justes. Comme le dit Paul dans Romains 8, 27, celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de saints. Quand on prie, le Saint-Esprit prie en même temps pour nous. Tout comme certains nutritionnistes considèrent le petit déjeuner comme le repas le plus important de la journée, même s'il y en a qui le sautent, comme moi, accordons du temps à Dieu dès le matin. La Bible dit que ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas. Alors confions nos journées, notre vie, à Dieu. C'est Jérémie qui dit ça. Dieu nous rappelle également que ses pensées ne sont pas nos pensées et que ses voix ne sont pas nos voix. C'est Isaïe qui le dit. David a aussi l'assurance de l'action de Dieu. Dieu répondra parce qu'il entend. Cette assurance est affirmée par l'expression « j'attends » du verset 4. Ce n'est pas l'assurance d'obtenir ce qu'il demande à Dieu, mais une certitude de la réponse de Dieu, favorable ou défavorable à ses yeux ou à nos yeux. C'est ce qu'on appelle avoir la foi, espérer l'avènement de quelque chose qu'on n'a pas encore. J'attends. David a manifesté sa patience quand il a fallu attendre que la promesse faite par Dieu de faire de lui le nouveau roi se réalise. Alors que Saül, qui avait compris que Dieu lui avait préféré David et intenté à sa vie, avait été à sa merci, David ne leva pas la main sur lui par crainte de Dieu, car Saül était un oint de Dieu. De même, quand son fils Absalom est monté sur le trône et a cherché à mettre un terme à sa vie, David a attendu avec patience que Dieu le rétablisse. Et il a écrit le psaume 3 en conséquence. Comme David, apprenons à attendre la réponse de Dieu avec patience. Ne cherchons pas à donner vie à notre prière par nos propres moyens. C'est de l'impatience. Et le proverbe 14:17 dit que l'impatience fera des actions de folie. L'impatience fera des actions de folie. Et la Bible regorge de beaucoup d'histoires en guise d'avertissement pour nous mettre en garde contre l'impatience. À commencer par le prédécesseur de David, le roi Saül, qui avait perdu patience alors qu'il attendait Samuel, le souverain sacrificateur, pour offrir un sacrifice à l'Éternel et avoir sa bénédiction avant d'aller en guerre contre les Philistins, dans 1 Samuel 13. Et dans son impatience, il a offert lui-même le sacrifice alors que cette fonction était réservé exclusivement au souverain sacrificateur. Ce fut un sacrilège qui lui a valu d'être rejeté par Dieu, qui a résolu de donner la royauté à un autre, David. Et dans leur impatience également de voir Moïse revenir de la montagne sainte, le peuple d'Israël, fraîchement délivré spectaculairement d'Égypte par Dieu, s'est fabriqué un veau d'or qu'il a adoré, Exode 32. Et ce sacrilège leur a valu la mort d'un bon nombre d'entre eux. Apprenons également à attendre l'action de Dieu. Ne dit-on pas que tout vient à point à qui sait attendre? Tout vient à point à qui sait attendre. Notre Dieu ne tarde pas. Il agit en son temps. Les versets 5 à 7 et 10 à 11 nous parle plutôt d'une déconnexion dès à présent et à jamais. Versets 5 à 7 et 10 à 11 qui disent « Tu fais mourir les menteurs, 5 à 7. Toi, tu n'es pas un Dieu qui aime le mal. L'homme méchant n'est pas reçu chez toi. Non, les orgueilleux ne peuvent pas se présenter devant toi. Tu as horreur de tous ceux qui font du mal. Tu fais mourir les menteurs. Seigneur, tu détestes l'assassin et le voleur. » Et 10, 11 qui disent « Non, on ne peut pas faire confiance à ces gens. Leur cœur est plein de crimes. Leurs paroles détruisent les gens. Avec leur langue, ils trompent les autres. Ô Dieu, montrent qu'ils sont coupables, que leur projet les fasse tomber. Ils ont fait beaucoup de mal, chasse-les, car ils se sont révoltés contre toi. » Et dans ces versets, David nous parle du regard de Dieu sur ceux qui font naturellement le mal, qui est l'obstacle qui les éloigne de Dieu. Il rappelle d'emblée que Dieu n'aime pas le mal dans tous ses aspects. Le mal est représenté par les ténèbres. Et la Bible nous rappelle que Dieu, lui, est lumière et qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. 1 Jean 1, verset 5. Et en tant que créateur et régisseur de l'univers, Dieu a établi et dicté les règles que ses créatures, et en particulier les hommes, doivent respecter. Et toute désobéissance à ces règles, à la loi, à la volonté de Dieu, est péché. Et la sentence qui est associée est l'éloignement de Dieu, la mort. Dieu est lumière, et la lumière ne peut cohabiter avec les ténèbres qui est péché. Et le portrait dressé par David et ces gens qui font le mal n'est pas fameux. Ils sont méchants, orgueilleux, font le mal, menteurs, assassins, voleurs, pas dignes de confiance. Leur cœur est plein de crimes, leurs paroles détruisent les gens, ils sont trompeurs. Il n'y a aucun point positif, en tout cas dans tout ce qui est dit. Et on pourrait bomber le torse en se disant « Ouf, heureusement, je ne suis pas comme ces personnes décrites par David. » Mais sommes-nous vraiment différents? Ne faisons-nous pas le mal? Ne méditons-nous pas parfois le mal? Nous pouvons dire que nous ne sommes pas assassins. Est-ce réellement vrai? Jésus a dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Matthieu 5, versets 21-22. Ne sommes-nous pas parfois orgueilleux? Ne nous révoltons-nous pas aussi contre Dieu quand nous n'obéissons pas à sa parole et à sa volonté? Ne trompons-nous pas non plus quand on dit des demi-vérités? Nos paroles ne font-elles pas parfois des dégâts colossaux, telles une bombe atomique qui dévaste tout sur son passage? Parfois, en voulant même faire le bien, nous agissons de manière maladroite et le résultat est contre-productif. Il y a quelques années, nous avions reçu Jean-Claude Chang pour un exposé sur les sectes et nous avait raconté une bien triste histoire qu'il avait vécue lui-même. Durant des années, il tenait un stand dans un marché dans le but de propager l'évangile, la bonne nouvelle, et Dieu avait permis que sa voisine, qui tenait aussi un stand à côté, puisse être réceptive de ce message. Elle a décidé de se rendre donc dans une église. Elle y allait tout naturellement avec son accoutrement habituel, qui a priori n'était pas du goût du pasteur. Et à la fin du culte, elle s'est entretenue avec le pasteur et est rentrée chez elle, abattue et en colère. Elle ne voulait même plus du tout adresser la parole à Jean-Claude Chang. Des jours après, c'est le mari de la femme qui a raconté à Jean-Claude Chang la première expérience de sa vie, de sa femme dans une église. Elle n'avait eu droit qu'à des observations désobligeantes, sévères sur son accoutrement. Qui sait si un jour elle remettra les pieds dans une église? Et un philosophe en herbe, Emmanuel Codio, pour ne pas le nommer, a dit récemment que l'évangélisation est comparable à la pêche. Je suis d'accord avec lui. Il faut y aller avec le bon appât, sans agiter l'eau de peur de faire fuir tous les poissons. Méditant et veillant sur ce que notre bouche confesse. Tous les hommes sont concernés par le péché. Comme le dit David au verset 10, un jour, Dieu montrera de manière visible que les personnes qui font naturellement le mal sont coupables et confirmera le jugement qui sera alors définitif. C'est la déconnexion irréversible et définitive. Le salaire de leurs actes sera alors la mort, comme le dit Paul dans Romains 6, car le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Seul Jésus permet de ne pas subir ce jugement, de ne pas être déconnecté à vie. Il suffit pour cela de croire en lui et de le choisir comme Seigneur et Maître de sa vie. Alors vous qui écoutez et qui n'avez pas encore fait le choix d'accepter Jésus comme votre Sauveur, pour être pardonné de toutes vos fautes, c'est ici l'heure de faire ce choix vital. Et ne remettez pas à demain, car nous ne sommes pas maîtres des horloges. Si vous souhaitez discuter, en savoir davantage sur Jésus, sur l'Évangile, et les anciens se tiennent à disposition pour cela, avec l'aide de Dieu. Versets 8, 9 et 12 à 13, la connexion à vie. Mais tous ceux qui... 8, 9, avant. Alors 8, 9 nous dit, « Mais moi, grâce à ton amour, je peux entrer dans ta maison. Avec grand respect, je me mets à genoux en direction de ton temple saint. Seigneur, tu es juste, guide-moi à cause de ceux qui me surveillent en cachette. Enlève les obstacles sur le chemin que tu m'indiques. » Et 12, 13. Mais tous ceux qui se réfugient en toi seront dans la joie. Leur joie ne finira pas, car tu les protégeras. Ils danseront de joie, ceux qui aiment ton nom. Oui, toi, Seigneur, tu bénis ceux qui t'obéissent. Ta bonté les entoure comme un bouclier. Dans la mesure où tous les hommes sont égaux devant Dieu, pécheurs, David fait preuve d'humilité et de reconnaissance. Il ne se sent pas supérieur ou meilleur aux hommes qu'il a décrits plus haut. S'il peut s'approcher de Dieu, qui est trois fois saint, ce n'est pas à cause ou grâce à ses œuvres, à ses actions, au respect scrupuleux de la loi parfaite de Dieu. C'est uniquement grâce à l'amour de Dieu qu'il peut le faire, comme il le dit au verset 8. « Mais moi, grâce à ton amour, je peux rentrer dans ta maison. » Il a expérimenté le pardon de Dieu malgré ses fautes, et en particulier le complot fomenté pour faire tuer Uri, car il avait eu une relation extra-conjugale avec sa femme Bathsheba. Il écrira le psaume 51 pour demander pardon pour ce péché. Et fort de son expérience, David écrira aussi le psaume 103 qui nous parle de la grandeur de l'amour de Dieu face au péché des hommes. Et dit, l'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous notre transgression. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous notre transgression. C'est par la grâce de Jésus, qui est mort à la croix pour les péchés de tous les hommes, que nous pouvons être connectés à Dieu. David nous dit également dans quelle attitude il s'approche de Dieu, avec grand respect. Comme Jésus l'a commandé à ses disciples dans l'enseignement de la prière, « Notre Père qui est aux cieux ». Une manière de dire que Dieu est bien au-dessus de tout et qu'il mérite de ses faits notre respect. Et nous, comment venons-nous à Dieu? Lui accordons-nous le respect qui lui est dû? David rappelle également combien Dieu est juste, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il a promis, ce qu'il a annoncé. L'une des promesses de Dieu est qu'il guidera ceux qui mettront leur confiance en lui. En passant par Abraham, à Jacob, David, à Jésus et à Paul, Dieu a tenu cette promesse qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Cette promesse a pris une autre forme avec la venue la mort, la résurrection de Jésus-Christ et l'avènement du Saint-Esprit. C'est par lui que Dieu conduit. Tout comme Jésus a enseigné dans la prière du Notre Père à demander à Dieu de ne pas nous laisser entrer en tentation, David demande à Dieu d'enlever les obstacles sur le chemin qu'il lui indique. Ces obstacles sur le chemin ne sont pas forcément des complots montés contre nous, mais les manœuvres du diable. Les manœuvres pour nous pousser au péché en vue de nous écarter du chemin qui mène à la vie éternelle. La Bible dit que chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis, le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Veillons donc, et ne nous trompons pas nous-mêmes en croyant que les obstacles ne peuvent être qu'extérieurs. Ils sont, hélas, bien souvent internes. Et pour combattre ces obstacles, nous avons besoin de la force de Jésus. Enfin, au verset 12 à 13, David termine par la description de la joie permanente qui ne finira pas, selon le texte, de ceux qui se réfugient en Dieu, car Dieu lui-même les protégera. Ils danseront de joie. C'est l'issue certaine de ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Ils danseront de joie. Des siècles après David, Jésus est venu sur terre selon le plan de Dieu. Et il a fait cette promesse à ses disciples, « Je vais au Père, vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus donne la vie éternelle. Être conscient de cela devrait nous mettre dans une joie indescriptible, car cette promesse est certaine, elle s'accomplira. Nous pouvons nous appuyer sur l'expérience des disciples. Étienne, par exemple, le premier martyr de l'histoire de l'Église, était rempli de cette joie, de cette espérance, alors qu'il allait être lapidé et mis à mort devant les yeux incrédules d'un homme qui lui-même mettra plus tard sa foi en Jésus et dira « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Celui qui dira ça, c'est Paul dans Romains 8, les versets 38 à 39. Jésus est lui-même le garant de notre relation avec lui. Dieu nous donne la vie éternelle. Et cette perspective doit nous mettre dans une joie qui commence aujourd'hui et se poursuit dans l'éternité. Je finis juste avec le verset 13. Oui, toi Seigneur, tu bénis ceux qui t'obéissent. Ta bonté les entoure comme un bouclier. Connectons-nous à lui dès le matin pour être connectés à vie. Prions.